La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat.
En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran.
Ici, Lan. Les Français parlent au français.
Si la radio que nous connaissons aujourd'hui passe par l'écoute de podcasts, Internet ou se transforme simplement pour devenir numérique, cela n'a pas toujours été le cas. Pour arriver aux technologies d'aujourd'hui, la radio a dû passer par beaucoup d'étapes et surtout beaucoup de successions d'inventions. Commençons alors au 19e siècle. 1841, Samuel Morse invente le télégraphe. Enfin, il l'invente. Pas vraiment. Car le télégraphe est déjà là depuis 50 ans, depuis 1793, avec Claude Chappe. Il n'a peut-être pas même inventé le télégraphe électrique non plus, hein, puisque pour ça, on peut citer le français André-Marie Ampère, l'allemand Wilhelm Eduard Weber ou encore l'anglais Charles Weston. Mais Monsieur Morse s'inspire des travaux de tous ses prédécesseurs pour inventer un système simple et robuste de télégraphie. Après un voyage en Europe en 1832, sur le Sully, le fameux navire qui le ramène aux États-Unis, il conçoit l'idée d'un télégraphe électrique après une conversation sur l'utilisation de l'électroaimant et les travaux d'Ampère avec le géologue Charles Thomas Jackson. 8 ans plus tard, le 20 juin 1840, un brevet lui est accordé pour l'invention du télégraphe électrique pour lequel son assistant Alfred Weil invente un code original de transmission dénommé le American Morse. C'est après bon nombre d'essais et de réglages sur la ligne télégraphique Baltimore-Washington que le tout premier télégraphe public, par code Morse, put être envoyé. Nous sommes alors le 24 mai 1844 et le message est « What has God through ?» soit « Qu'est-ce que Dieu a fait ?» qu'on peut aussi traduire par « Ce que Dieu a forgé ?» Voici d'ailleurs le premier message en Morse. Un message qui a parcouru 60 km, la distance entre Washington et Baltimore, soit une sacrée trotte pour un message de l'époque. Mais comment fonctionne alors un télégraphe de Morse? Eh bien, un petit peu comme une sonnette. Grossièrement, si on appuie sur le bouton, on ferme le circuit électrique. On laisse l'électricité passer, ce qui donne un signal au bout du fil. On peut alors envoyer 30 mots par minute. Mais en langage morse, évidemment. Le langage morse, c'est le signal donné par la fermeture du circuit. Pour retransmettre les sons en message, on utilise tout simplement l'alphabet qu'on connaît aujourd'hui. En fait, chaque lettre s'est vue accorder un signal de son long et de son court. Par exemple, le A est donné d'abord par un son court, puis ensuite un son long. Il sera d'ailleurs question de morse également pour les messages de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Bon, pour l'instant, on parle de messages un petit peu comme un mail ou encore un SMS, si on compare à aujourd'hui. Et vous êtes d'ailleurs en droit de vous demander quel est le rapport avec la radio? Eh bien, ça reste de la transmission d'informations à distance, et ça, ça a beaucoup de rapport avec la radio. En fait, pour arriver à la radio, il faut encore plusieurs étapes. Il faut bien sûr passer par le fameux Heinrich Hertz, celui qui découvre les ondes. Qu'on appelle forcément les ondes hertziennes d'ailleurs. Et devinez quoi, on les utilise encore aujourd'hui pour transmettre la radio, ces ondes. Heinrich Hertz est un passionné. Il étudie beaucoup. Et un jour, il arrive dans l'université de Karlsruhe. C'est au sud-ouest de l'Allemagne. La ville d'ailleurs de l'inventeur de la Dresienne, mais là n'est pas le sujet. Il s'installe sur son campus et y étudie différents sujets jusqu'au moment où il s'intéresse aux théories de l'électromagnétisme et se plonge dans l'étude des ouvrages de Helmholtz, son professeur à Berlin, de Weber et de Maxwell. Le hasard d'une manipulation l'incite à étudier les étincelles qui éclatent dans un montage. Évidemment, dans des circonstances où elles n'étaient pas attendues. Guidé par ses précédentes études de l'électromagnétisme, cette piste l'amène à prouver l'existence des ondes électromagnétiques proposées par Maxwell. Heinrich Hertz présente alors ses résultats en décembre 1888 dans un mémoire adressé à l'Académie des sciences de Berlin. Et là, on commence déjà à avoir presque, je dis bien presque, une radio. Puisque dans son installation à Monsieur Hertz, on a un émetteur. Il y a un tas d'autres choses, bien sûr, mais je pense que l'émetteur est ce qu'on peut relier le plus simplement au fonctionnement de la radio. Outre ça, si vous voulez vraiment tout savoir, on a deux sphères, du câble et de la bobine de Ruhmkorff. Cette fameuse bobine a d'ailleurs son importance, puisque c'est une sorte de générateur électrique qui permet d'avoir des tensions de plusieurs milliers de volts. Et une fois que la machine est en route, une fois que la tension est assez élevée, on a une grosse étincelle qui se crée et se propage jusqu'aux sphères, qui se renvoie ainsi de suite, ce qui crée, et c'est Heinrich Hertz lui-même qui le dit, une sorte de diapason électrique. Après l'émetteur qu'on a évoqué, il nous faut un récepteur, forcément. On peut aussi l'appeler résonateur. Grossièrement, il reprend le signal créé par l'émetteur. Et c'est le 13 novembre 1886 qu'Heinrich Hertz effectue la première liaison entre un émetteur et un récepteur. Ses résultats ouvrent la voie à la télégraphie sans fil et à la radiodiffusion. Mais ce n'est pas suffisant pour arriver à une radio qui fonctionne correctement. Mais la suite sera pour une autre fois. Rah!